monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition. Du mercredi 5 février 2025, le M23 et les troupes rwandaises lancent une nouvelle offensive dans l'est de la RDC. À Goma, capitale du Nord Kivu, tombée aux mains des rebelles du M23, la vie reprend lentement son cours normal.
Le travail n'avance pas très bien, on a encore peur. Arriver au marché, c'est un sacrifice.
Reportage à suivre dans la partie magazine. En Tunisie, la justice condamne à de lourdes peines de prison de hauts responsables politiques. Le déficit commercial des États-Unis accuse une hausse de 17% sur un an. Concert de protestation contre le projet de Donald Trump ou Gaza. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Le M23 et les troupes rwandaises ont lancé aujourd'hui une nouvelle offensive dans l'est de la République démocratique du Congo et se sont emparés d'une cité minière dans la province du Sud Kivu, reprenant leur progression vers la capitale provinciale Bukavu. Les précisions de John Lydon.
Le M23 et les troupes rwandaises ont initié à l'aube d'intenses combats contre les forces armées congolaises dans le sud Kivu, selon des sources sécuritaires et humanitaires. Ils se sont emparés de la cité minière de Nyabiwe, à environ 100 km de Bukavu et 70 km de l'aéroport provincial. Après s'être emparés la semaine dernière de Goma, capitale de la province voisine du Nord Kivu, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire censé être en vigueur depuis mardi. Il avait ajouté n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu ou d'autres localités. C'est bien la preuve que le cessez-le-feu unilatéral qui avait été décrété était comme d'habitude un leurre, a réagi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Des sources locales et militaires indiquaient ces derniers jours que l'armée congolaise, comme le M23 et ses alliés rwandais, étaient en train de se renforcer en troupes et en matériel dans la région. Les organisations régionales, des pays médiateurs comme l'Angola et le Kenya, l'ONU, l'Union européenne et la communauté internationale tentent de trouver une issue diplomatique à cette crise, craignant un embrasement régional.
Quelques 2000 corps ont été récupérés dans les rues de Goma ces derniers jours et 900 corps sont à la morgue, a dit la chef adjointe de la mission de l'ONU en RDC, Viviane Van de Pierre, précisant que ce bilan pourrait encore s'alourdir. La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dénoncé aujourd'hui à Bruxelles l'inaction de la communauté internationale après l'offensive du M23 appuyée par des troupes rwandaises dans l'est du pays. En Tunisie, des journalistes et plusieurs personnalités politiques, dont le plus célèbre des opposants au président Kais Saied, Rached Ghannouchi, ont été condamnés aujourd'hui à de lourdes peines de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Rosine Monezero.
Rached Ghannouchi, 83 ans et chef du parti islamo-conservateur Ennahda, a écopé de 22 ans de prison, ont indiqué deux avocats. Condamné dans plusieurs autres affaires, il se trouve déjà derrière les barreaux. L'ancien Premier ministre Hichem Mechichi a lui été condamné par contumace à 35 ans de prison, selon les mêmes sources. Les journalistes Shahrazed Akacha et Chadaraj Barek ont respectivement été condamnés à 27 ans et 5 ans. Le verdict a aussitôt été critiqué par des proches d'accusés et par le syndicat des journalistes. Le président du syndicat national des journalistes tunisiens, Zaïd Dabar, a dénoncé un verdict lourd et injuste contre la journaliste Chada Haj Barek, qui prouve que la magistrature est devenue une épée au-dessus de la tête des journalistes. Le parti Ennahda a de son côté, dans un communiqué, fustigé un procès politique. Ennahda était la principale force au sein du Parlement lorsqu'il a été dissous par le président Kais Saied lorsqu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021.
Au moins 17 élèves sont morts dans un incendie survenu mardi soir dans l'état de Zamfara au nord du Nigeria, a déclaré aujourd'hui un porte-parole de la police de l'état. Les élèves d'une école islamique de la ville de Koran Namoda, âgés de 7 à 17 ans, ont péri dans l'incendie, tandis qu'une douzaine d'autres ont été transportés à l'hôpital avec de graves brûlures, selon la police. Ousseinou Adamou, qui a perdu deux enfants dans le sinistre, a déclaré que le feu avait commencé dans une maison voisine avant de se propager à l'école islamique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est plaint auprès d'Elon Musk de la désinformation et a alimenté les déclarations du président américain Donald Trump et du magnat de la tech sur une prétendue confiscation de terres en Afrique du Sud, a déclaré ce mercredi son porte-parole.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De multiples condamnations après la proposition du président américain Donald Trump de contrôler Gaza et de déplacer ses habitants. L'ONU affirme que le déplacement forcé d'un territoire occupé est strictement prohibé. Alexandrine Ollognon.
Le droit à l'autodétermination est un principe fondamental du droit international et doit être protégé par tous les États, a rappelé le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué. Le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, s'est pour sa part dit surpris par les propositions de Donald Trump. Le mouvement islamiste palestinien a accusé le président américain de jeter de l'huile sur le feu avec ses déclarations qui ne contribueront pas à la stabilité du Moyen-Orient. Le président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que l'Égypte, la Jordanie ont dénoncé les déclarations américaines dangereuses pour la stabilité et le processus de paix. Pour la France, l'avenir de Gaza passe par un futur État palestinien et non par le contrôle d'un pays tiers. Pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, les Palestiniens de Gaza doivent pouvoir revenir chez eux et reconstruire. Le territoire appartient aux Palestiniens, a aussi affirmé Berlin.
En Syrie, l'ex-ministre de l'Intérieur du régime déchu de Bachar al-Assad, Mohamed al-Shah, s'est rendu mardi aux nouvelles autorités syriennes, a annoncé le gouvernement. Ministre de 2011 à 2018, il était sanctionné par l'Union européenne et les États-Unis pour la répression des manifestations de 2011. En 2012, il avait survécu à un attentat suicide revendiqué par le front al-Nusra. Bachar al-Assad, lui, s'est réfugié en Russie après sa chute le 8 décembre et plusieurs hauts responsables de son administration auraient quitté la Syrie. Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé en 2024 de 133 milliards de dollars pour atteindre près de 920 milliards de dollars, accusant une hausse de 17% sur un an selon les données publiées ce mercredi par le département du commerce. Le point avec Eric Manirakiza.
Le déficit des échanges de biens et services en décembre a atteint 98,4 milliards de dollars, soit une hausse de près de 25% par rapport à novembre. La hausse observée lors du dernier mois de l'année est supérieure aux attentes des analystes qui prévoyaient en moyenne une augmentation un peu moins marquée du déficit en décembre à 96,8 milliards de dollars. En décembre, en revanche, les exportations sont en recul alors que les importations ont sensiblement progressé. Cette baisse des exportations en décembre s'explique par un recul des produits pétroliers et pharmaceutiques que la hausse des ventes dans l'aviation civile ne permet pas de compenser. A l'inverse, les États-Unis ont augmenté leurs importations d'équipements informatiques, produits de consommation traditionnels en période de fête. Le déficit commercial avec les deux voisins des États-Unis a connu une évolution différente. Il est en effet en léger recul avec le Canada, mais s'est encore creusé dans les échanges avec le Mexique. L'Union européenne reste en deuxième position avec un déficit commercial américain de 235 milliards de dollars, là encore en hausse près de 13% sur un an.
La Russie a dit aujourd'hui avoir échangé avec l'Ukraine 150 prisonniers de guerre ukrainiens contre autant de Russes, cette question restant l'une des rares sur lesquelles les deux pays en guerre parviennent à coopérer. Le ministère russe de la Défense qui a annoncé l'échange a indiqué que les Russes se trouvent actuellement au Bélarus pour recevoir une assistance psychologique et médicale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part écrit sur Telegram qu'aujourd'hui est un beau jour pour nous tous car nous ramenons 150 de nos défenseurs de la captivité russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs déclaré dans un entretien diffusé mardi que Kiev était prêt à s'engager sur la voie diplomatique avec la Russie pour mettre fin au conflit de près de 3 ans entre les deux pays. Le président ultralibéral argentin Javier Milei, dans le sillage de son allié américain Donald Trump, va retirer l'Argentine de l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé aujourd'hui la présidence, citant de profondes différences sur la gestion sanitaire, le Covid en particulier, et l'influence politique de certains États. Dans un communiqué publié peu après l'annonce, la présidence argentine revient à la charge sur la gestion de la pandémie, estimant que l'OMS a échoué dans son épreuve de feu sur le Covid en promouvant des quarantaines éternelles sans fondement scientifique et provoquant une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire mondiale. Et puis la Suède est en deuil après la pire tuerie de son histoire, qui a fait 10 morts dans un centre pour adultes dans la ville d'Otterbro. Le Premier ministre a appelé les Suédois à l'unité face à cette tragédie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lindon.
Les banques centrales du monde entier ont ajouté un peu plus de 1044 tonnes d'or à leurs réserves en 2024. C'est ce qu'annonce ce 5 février le World Gold Council. À en croire l'agence Ecofin, cette tendance illustre une accélération de la stratégie de diversification des réserves d'échange de ces institutions face aux risques liés à certaines devises fortes. Le World Gold Council note que la hausse de l'inflation et les risques de crise plus élevés encouragent en partie ces achats. Au Cameroun, la grève chez le producteur de sucre Sosucam s'envenime, selon le site ecomatin.net. Ce mouvement d'humeur qui dure depuis 8 jours dans cette société, en dépit des négociations engagées par le top management avec les partenaires sociaux, a viré mardi à l'affrontement entre policiers et les quelques 3000 manœuvres agricoles de l'entreprise. Un mort enregistré parmi les manifestants. Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé en 2024 de 133 milliards de dollars pour atteindre près de 920 milliards de dollars, accusant une hausse de 17% sur un an, selon les données publiées mercredi par le département du commerce. Le déficit des échanges de biens et services en décembre a atteint 98,4 milliards de dollars, soit une hausse de près de 25% par rapport à novembre, sous l'effet conjugué d'une hausse des importations et baisse des exportations.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous.
Souleymane Camara reprend les commandes de la sélection nationale locale de la Guinée.
Oui, il y a quelques semaines, Souleymane Abedi Camara, sélectionneur du Sili National A' et son adjoint Guillaume Souma, avaient été écartés de leurs fonctions par la Fédération guinéenne de football au motif que les deux techniciens ne disposaient pas des licences ACAF ou équivalentes exigées par la CAF pour entraîner les équipes nationales. Bien qu'ayant envisagé ces critères dans le cadre de la professionnalisation du football en Afrique, la CAF ne décide pas de l'appliquer en ce moment et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Fédération guinéenne de football, ajoutant que Souleymane Abedi Camara et Guillaume Souma reprennent donc fonction. Le Sili national local s'est qualifié pour la phase finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, prévue du 2 au 30 août prochain en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya.
Sur le marché des transferts, Ismaël Benacer rejoint l'Olympique de Marseille.
Le milieu de terrain international algérien s'est dit très pressé de porter le maillot de Marseille, un club où il avait toujours voulu passer. L'ancien milieu de terrain de l'AC Milan a aussi évoqué l'importance dans son choix de la présence à Marseille de Roberto De Zerbi. Champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019, Ismaël Benacer a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme à Marseille où vit une très importante communauté algérienne et où il a retrouvé Amine Gouiri, son partenaire en sélection. Benacer a assuré qu'il arrivait à l'OM avec de l'ambition.
J'ai déjà gagné, si je peux apporter cette expérience-là, et si je suis là, c'est pour des objectifs clairs. C'est pas pour être deuxième, c'est pas pour être troisième. Quand on est un joueur de Marseille, quand on signe là, la mentalité, c'est d'essayer de gagner tous les matchs.
Ismaël Benacer, nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille.
Ici en NBA, Joel Embiid retrouve le parquet.
Après un mois d'absence pour soigner un genou et un pied, le Camerounais a repris sa place au sein des Philadelphia Sixers, qui ont fêté son retour avec une victoire contre Dallas 118 à 116, privé de sa nouvelle recrue star, Anthony Davis. De leur côté, les cavaliers leaders de la conférence Est recevaient les Celtics champions en titre dans un choc qui a tourné en faveur des visiteurs. Boston a marqué les esprits en s'imposant 112 à 105 à Los Angeles sous les yeux de leur toute nouvelle recrue surprise Luka Doncic, resté sur le banc. Les Lakers ont infligé une sévère défaite 122 à 97 aux Clippers.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Quelques jours seulement après la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23, les activités socio-économiques reprennent dans cette ville touristique de l'est de la République démocratique du Congo. Les marchés et les magasins sont de nouveau opérationnels. Même si les clients sont encore rares, les hôpitaux sont également à pied d'œuvre pour prendre soin des patients atteints par des éclats de bombes et de balles. Les détails avec notre correspondant Zanem Netizaidi.
Au marché Maman Olive Lembe de Goma, les denrées fraîches à provenance de l'intérieur de la province du Nord Kivu et celles voisines du site Kivu affluent. Les activités ont repris après plusieurs jours d'arrêt en raison des affrontements intenses entre l'armée congolaise et le M23. Ces commerçants affirment que même si les activités semblent revenir à la normale, la peur est toujours palpable.
Le travail n'avance pas très bien, on a encore peur. Arriver au marché, c'est un sacrifice. Nous avons voulu quitter nos maisons pour venir au marché pour que nous ne puissions pas mourir de faim. La plupart des gens sont dans leurs maisons.
La circulation est à nouveau fluide. Les bus et les taxis des transports publics sont également opérationnels. Jean-Claude, qui accueille les clients dans un bus des transports publics, parle d'une reprise encore timide.
Bon, déjà deux jours, oui, quand ça tourne la clinique.
Depuis des jours, nous sommes en train de travailler, mais nous avons encore des difficultés pour avoir des clients qui sont encore rares vu la situation actuelle. Certains ont encore peur, c'est ça la situation dans laquelle nous travaillons.
Les hôpitaux de Goma ont également repris leurs activités, bien qu'il y ait toujours un besoin de personnel, car de nombreux médecins font partie des personnes qui ont fui. Presque tous les malades ont été touchés par des balles et des fragments de bombes. Certains hôpitaux se disent débordés.
La crise vraiment c'est grave. L'hôpital est débordé. Nous avons 25 interventions par jour. Hier, on a pris en charge 25 malades. Aujourd'hui, nous avons 29 malades.
Alors que la vie reprend petit à petit à Goma, les écoles, elles, sont toujours fermées. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
En Gambie, des habitants de Bakao, ville située sur la côte atlantique du pays, à l'ouest de Banjul, la capitale, des jeunes se sont mobilisés pour participer au programme de migration temporaire en Espagne. Lancée par les autorités espagnoles pour lutter contre l'immigration clandestine, cette initiative permet à des migrants de travailler temporairement en Espagne avec un contrat avant de rentrer chez eux. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Debout ou à même le sol, ces jeunes Gambiens de Bakao ont pris d'assaut les bureaux du ministère du Travail ce jour tôt le matin. Tous remplissent ces formulaires, espérant être choisi pour participer à un programme de migration temporaire en Espagne. Mbassé Diété, candidate à l'immigration vers l'Espagne.
Je veux aller travailler là-bas pour trouver de meilleures opportunités. Ici, nous dépendons tous de l'agriculture, mais nous ne disposons pas de suffisamment de produits pour subvenir à nos besoins. C'est pour ça que nous espérons tenter notre chance avec cette opportunité. Je peux y aller, travailler comme convenu, gagner un salaire et y rentrer chez moi à la fin du contrat.
Dans l'espoir d'atteindre l'Europe, de plus en plus de migrants, en majorité des jeunes, empruntent la dangereuse route maritime pour rejoindre les Canaries espagnoles depuis les côtes ouest-africaines. Lors d'une tournée en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal fin août 2024, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a promis de développer la migration circulaire. Ce programme permet à des migrants de travailler en Espagne avec un contrat pendant une période limitée pour répondre aux besoins d'un secteur précis avant de rentrer chez eux. Mohamed Kouli, candidat à l'immigration vers l'Espagne.
On nous a dit que le travail serait lié à l'agriculture, ce qui n'est pas un problème pour moi car je suis déjà agriculteur. En ce moment, j'ai mon propre jardin où je fais pousser des oignons et du riz pendant la saison des pluies. L'agriculture est mon gagne-pain. Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'avoir cette opportunité.
En 2024, près de 47 000 personnes ont tenté de rejoindre l'Europe en prenant la mer depuis les côtes ouest-africaines jusqu'aux Canaries espagnoles, selon l'agence Frontex.
Plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, selon l'ONG Caminando Fronteras. À la question de savoir si ces potentiels migrants temporaires reviendront dans leur pays, d'aucuns sont catégoriques. Aladji Ndjie, candidat à l'immigration vers l'Espagne.
Par la grâce d'Allah, lorsque nous irons là-bas, nous tiendrons notre promesse. Il y a tellement de points qui mentionnent si on peut travailler, si on peut faire des heures supplémentaires. Quand on ira là-bas, on fera de notre mieux pour leur donner satisfaction.
En attendant, il faudra d'abord passer l'étape de la sélection. Et ce n'est pas toujours simple. À Bakao, la distribution des formulaires avait dû être suspendue lundi, quand des candidats à l'immigration ont escaladé l'enceinte de la cour du bâtiment et que des bagarres ont éclaté. Une scène similaire avait eu lieu mardi dernier à Dakar au Sénégal. Pour éviter les bousculades, l'État sénégalais a instauré le dépôt des dossiers en ligne.
Le bassin du lac Tchad est miné par une crise due au conflit de Boko Haram, aggravé par d'autres facteurs socio-économiques comme l'extrême pauvreté, le sous-développement, le changement climatique et d'autres conflits depuis une quinzaine d'années. L'État de Bornéo au Nigeria a accueilli le 5e forum des gouverneurs de la Commission du bassin du lac Tchad, axé sur les acquis en matière de sécurité, de coopération transfrontalière et de résilience économique. Gilbert Tamba était à Maïdougouri pour VOA Afrique. Reportage.
Ils sont venus des 8 territoires du bassin du lac Tchad pour discuter à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, de l'avenir de la région confrontée aux défis sécuritaires de développement. Le renouvellement de l'engagement en faveur de la paix et de la stabilité, le renforcement de la coopération transfrontalière, l'autonomisation des communautés, en particulier les initiatives dirigées par les femmes et les jeunes, et la prévention de l'extrémisme violent et lutte contre le trafic de drogue sont les préoccupations majeures des populations de la région.
Le 5e forum des gouverneurs, justement, c'est pour la coopération transfrontalière. La principale raison pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour renforcer, pour encourager la coopération transfrontalière. Il y a aussi beaucoup d'autres moyens dont la CPNT a encouragé la coopération internationale.
Le bassin du lac Tchad traverse une crise due au conflit de Boko Haram, des menaces terroristes persistantes dans les zones transfrontalières.
Il y a toujours des soucis. Parce que quand on voit, il y a des gens qu'on n'entend pas plus des attaques par le Boko Haram. Mais dans des mois qui sont passés, 2-3 mois, il y a eu reprise des attaques par Boko Haram. Donc, ça nous a montré qu'il y a toujours des soucis et les pays de sous-région, ils doivent s'attacher à travailler ensemble.
Le chef d'état-major de l'armée nigériane reconnaît ces défis sécuritaires et militaires, mais s'engage à poursuivre le combat.
Challenges will always come.
Les défis sont toujours présents, mais nous vaincrons. Les bonnes gens du Nord-Est ont fait preuve de résilience et malgré les années de défis et de difficultés, ils sont restés forts et déterminés ensemble. Nous réussirons.
Les participants au forum représentant des populations des zones affectées expriment que ce dialogue pourra produire des résultats attendus concernant surtout les décisions qui seront prises pour l'amélioration des conditions de vie dans la région du bassin de lac Tchad où quelques 6 millions de personnes, notamment des réfugiés, des déplacés internes en provenance du Cameroun, du Niger et du Nigeria, sont affectés.
Moi, mes attentes en participant à ce forum, c'était déjà de pouvoir voir comment est-ce que nos préoccupations sur le terrain, nous en tant que société civile, mais également en tant que femmes, vont être prises en compte dans ces stratégies révisées. Parce que pour la stratégie numéro une, nous en tant que société civile au Cameroun, particulièrement mon organisation, nous avons pris part à l'élaboration des plans d'action territoriaux, également à la mise en œuvre.
Le lac a perdu 90% de son volume en raison de sa surexploitation et du changement climatique. Les conflits entre éleveurs et fermiers se sont multipliés. Ce forum est ainsi un appel à transformer les défis en opportunités en favorisant la stabilité, la résilience et la prospérité dans le bassin du lac Tchad. Gilbert Tamba à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria pour VOA.
Washington Forum se penche cette semaine sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, marquée par la réplique de la Chine aux droits de douane imposés par Washington. Lundi, le président américain a suspendu sa menace d'imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada, acceptant une pause de 30 jours en échange de concessions sur l'application des lois relatives aux frontières et à la criminalité. Quel peut être l'impact de ces droits de douane dans l'économie mondiale? La stratégie America First peut-elle renforcer l'indépendance économique des États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alexandre Frolonno et ses invités sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Le président américain Donald Trump a déclaré souhaiter que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza dévastée par la guerre et il a répété que ses habitants pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte. M. Trump a fait cette annonce hier mardi alors qu'il recevait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Nathalie Baz relate un compte-rendu de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Ouida-Kouswara.
Donald Trump a fait cette annonce alors que des dizaines de milliers de Gazaouis retournent chez eux suite à l'accord de cessez-le-feu du 19 janvier entre Israël et le Hamas.
Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous y ferons du travail aussi.
Monsieur Trump veut développer la région pour en faire ce qu'il appelle la Riviera du Moyen-Orient.
Tous ceux à qui j'ai parlé aiment l'idée que les États-Unis possèdent ce morceau de terre, développent et créent des milliers d'emplois avec quelque chose qui sera magnifique dans une région vraiment splendide que personne ne reconnaîtrait parce que tout ce que l'on voit, c'est la mort, la destruction et les décombres.
Le président américain a fait cette annonce alors qu'il recevait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche.
Je l'ai dit, je le redis, vous êtes le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche.
Monsieur Trump n'a pas exclu d'envoyer des troupes américaines dans la bande de Gaza. L'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle n'accepterait de reconnaître Israël que si la guerre de Gaza prenait fin et que les Palestiniens avaient la possibilité d'accéder à un État. Mirette Mabrouk, chercheuse principale à l'Institut du Moyen-Orient.
Les expulsés de Palestine vers les pays voisins n'est pas un début particulièrement prometteur. Donc, je pense que cela va avoir un effet significatif. Cela dit, nous ne savons pas, comme pour tant de choses concernant le président Trump, nous devons juste attendre et voir.
L'annonce de Donald Trump sur Gaza est son dernier signal d'ambition expansionniste après ses déclarations sur l'acquisition du Groenland, la prise de contrôle du canal de Panama et la fusion du Canada avec les États-Unis. Avant sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, le président américain a par ailleurs ordonné la restauration de sa campagne de pression maximale sur l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Il a également mis fin au soutien à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens et a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qu'il qualifie d'antisémite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, la mise en onde, Joselle Maurice-Fain. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.